Pour la première fois, on a associé l'eau de la fontaine à la bénédiction de l'eau du Jourdain. Et l'eau est devenue aussi le Jourdain. On n'a pas fait deux bénédictions, mais on les a associées. Et c'est encore mieux de le faire de la fontaine, parce que ce sont des eaux vives, des eaux courantes. Et j'en profite pour vous expliquer ce qui est dommage d'être obligé de le faire, mais je suis obligé de le faire. De vous expliquer pourquoi il y a une fontaine au milieu de l'atrium et pourquoi la fontaine a cette forme-là. C'est un ensemble de symboles. Vous savez ce que c'est que des symboles, Corneille ? Qu'est-ce que c'est des symboles ? Qui c'est qui va coller l'autre ? Qu'est-ce que c'est un symbole ? Tu as ça sur les téléphones et tout ça, tu as des symboles, c'est ça ? C'est à ça que tu penses ?
Non.
Non ? Sur l'ordinateur ou des choses comme ça, non ? Non ? Tu penses à des symboles religieux ? Bravo. Un symbole, c'est un signe matériel, visible, qui montre, qui évoque, qui participe à une autre réalité qui n'est pas perceptible directement. Par exemple, quand une maman embrasse son enfant, l'embrassade, le baiser qu'elle lui fait, est un symbole. C'est-à-dire que le baiser fait sentir à l'enfant l'amour de la maman, et la maman sent l'amour de son enfant. Elle le sent. Elle le voit. Alors que si elle lui expliquait, « Mon petit chou, je t'aime bien », à 2 ans, il n'était pas trop capable de comprendre. Alors que là, en l'embrassant, elle le comprend directement. Vous voyez, un symbole, ça exprime quelque chose, mais ça crée, ou ça participe. Ça participe à le baiser, il participe à l'amour. Mais en lui-même, il n'est pas l'amour. Mais il y participe. Eh bien, les symboles chrétiens, dans toutes les religions d'ailleurs, mais notamment pour les nôtres, pour les symboles chrétiens, c'est ça, c'est une association, une union de deux réalités, une réalité visible et une réalité invisible. Et dans l'Église, la liturgie que nous avons vécue, la construction de l'Église, les deux d'ailleurs, chacune à leur manière, les chants, tout ça, c'était que des symboles. C'est-à-dire une réalité qui nous montre l'amour de Dieu, qui nous montre la lumière divine, lumière que vous ne voyez pas avec les yeux, mais que vous voyez autrement, que vous avez senti. Et j'en arrive à la fontaine. La fontaine, elle est placée au milieu d'une cour carrée, l'atrium. Parce que le carré représente le cosmos, l'univers que Dieu a créé. Ou la terre, si on veut simplifier. Mais la terre, c'est au sens de tout l'univers. Ce que Raéla est orienté de l'est à l'ouest, du nord au sud. Donc ça fait la forme d'une croix. Au milieu de cette croix, il y a au milieu de l'intersection des allées, qui sont marquées par les allées, il y a un point central, qui est l'intersection des lignes droites qui vont à chaque des allées, si vous voulez, et des angles de l'atrium. Ça fait donc une étoile à huit branches. Ça fait une croix à 8 branches. Dans le paradis, tel que le paradis est décrit dans la Genèse, il était carré. Il était orienté vers le soleil levant, vers le soleil. Parce que le vrai soleil, c'est le Christ. Et c'est pour ça que dans notre atrium, au soleil levant, c'est l'Église qui est là, qui est le véritable, l'Église qui est le Christ, donc qui est le véritable soleil. Au-dessus du carré de la Terre, carré ou rectangle, c'est pareil, c'est la même figure géométrique, c'est toujours quatre angles. Et au-dessus du cosmos, du cloître représentant le cosmos, il y a une voûte. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure. Moi, j'étais occupé avec la liturgie. J'ai pas regardé s'il y avait des étoiles ou pas. Mais il y a une voûte, le firmament. Le firmament, c'est la coupole que vous représentez dans l'Église, mais c'est la coupole du ciel aussi qui repose sur l'horizon. Et la coupole, le firmament, a un point particulier, c'est l'étoile polaire, qui est de ce côté-là. Elle n'est pas à la verticale au-dessus de nous ici, mais elle est sur le côté. Et toutes les étoiles tournent autour de l'étoile polaire. Et quand on est... Et ça fait au centre de la coupole, il y a aussi un point. Un point qui est le point unique de la coupole. Tout le reste, toutes les autres lignes, ce sont des reproductions à l'infini, des agrandissements, si vous voulez, à l'infini, du point unique. Mais ils participent au point unique. Et ils sont une infinité. Donc le point représente Dieu, en quelque sorte, symboliquement. Et à partir de là, il y a une infinité de mondes, une infinité de personnes. Et entre ce point central de la coupole et le point central de la Terre, il y a une échelle invisible. Mais il y a une échelle entre le ciel et la Terre. Cette échelle-là, c'est le Christ, qui est à la fois Dieu et la foi. Donc il y a une correspondance. C'est une ligne invisible, mais une ligne réelle, qui n'existe pas simplement dans notre imagination, mais qui existe réellement. Pourquoi je vous dis ça au propos de la fontaine? Parce que au centre de la cour carrée qu'est l'atrium, vous avez justement la fontaine. Et sur la fontaine, vous avez une colonne qui indique l'axe entre la terre et le ciel. En haut de cette colonne, vous avez une petite sphère qui représente le domaine de Dieu, l'éternité de Dieu, la perfection de Dieu. Et il y a une croix par-dessus qui montre que Dieu, il s'est manifesté aux hommes par la croix. Et en quelque sorte, réellement, mais symboliquement, on le représente comme ça, la croix qui est au-dessus est faite pour descendre jusque dans la fontaine. Et c'est ce qu'on a fait quand on a plongé la croix avec les rameaux. Mais inversement, la colonne, elle est faite aussi pour les hommes qui montent sur cette colonne, symboliquement, qui s'élèvent vers le ciel pour aller jusqu'à la croix, pour se crucifier avec le Christ, pour entrer dans le royaume des cieux. Ce pivot, cette colonne entre le ciel et la terre, représente le Christ, comme je vous disais, qui est du ciel et de la terre. Mais il présente aussi la mère de Dieu. Dans le sens de la descente, c'est Dieu par la deuxième personne de la Trinité, le Christ, qui est descendu sur terre. Mais dans l'autre sens, c'est la mère de Dieu qui est la mère de tous les humains, qui est la fine fleur du genre humain, c'est-à-dire d'une partie de l'homme. C'est la mère de Dieu et tous les hommes avec elle qui s'élèvent vers le royaume. Et justement, l'atrium représente toujours la mère de Dieu. Non seulement ça représente le paradis terrestre, mais ça représente la mère de Dieu. Parce que nous avons vu que dans l'Ancien Testament, dans un livre de sagesse, dans le livre du Cantique des Cantiques, nous voyons que l'époux, c'est-à-dire Dieu, cherche l'épouse, c'est-à-dire l'humanité. Et l'humanité cherche l'époux, il cherche à se rencontrer. Et ils sont dans un jardin qui rappelle le jardin d'Éden, qui rappelle le paradis, mais qui n'est pas le paradis, qui est l'au-delà du paradis, qui est le nouveau paradis, celui de la fin des temps, quand Dieu et quand l'homme est réconcilié avec Dieu par la descente de Christ. Donc un atrium, c'est toujours aussi la mère de Dieu, le nouveau paradis. C'est important que ça pourrait être un obélisque qui soit au milieu de l'église, au milieu de l'atrium. Mais non, c'est une fontaine. Parce que, par définition, une fontaine, il y a de l'eau. L'eau, elle vient du dessous. Et elle jaillit par les quatre robinets, normalement. Il y en avait trois, paraît-il, mais enfin, normalement, elle jaillit par quatre robinets, c'est-à-dire aux quatre points cardinaux, c'est-à-dire dans l'univers entier. Et si c'est le Christ qui est représenté par la colonne, à ce moment-là, c'est le sang du Christ qui est l'Esprit Saint qui l'envoie, par lequel il nous baptise par l'eau et par l'Esprit Saint. En plus, les eaux qui sont dans la fontaine représentent par définition les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, vous les recevez quand, la tête quand il pleut. Mais ces eaux-là sont les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est-à-dire les eaux infernales, les eaux qui sont sous la terre. Et ça veut dire que la colonne invite, que la colonne montre que le Christ qui vient d'en haut meurt. Il était venu sur terre, donc au niveau du carré, si vous voulez. Et il descend jusque sous la terre pour ressusciter les morts qui, à leur tour, montent, sortent des eaux infernales, repassent au niveau de la terre et s'en vont dans le ciel. Donc rien que la colonne montre toute la réalité, symbolise toute la réalité de la descente, de l'incarnation du Christ et de la résurrection, de l'ascension des hommes. En plus, la fontaine a 8 côtés, comme la colonne d'ailleurs a 8 côtés. Parce que comme nous le savons, Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Ce soir-là, le soir du 6e jour, il est mort sur la croix. Il était enfermé dans le tombeau le 7e jour, le soir du Shabbat. Et le lendemain, des évangélistes disent que le lendemain de ce même jour, le lendemain du 7e, c'est le 8e, n'est-ce pas ? Le Christ est ressuscité. Et il ressuscite pour ne plus jamais mourir. Donc le chiffre 8, ou les huit côtés de la fontaine, les huit côtés de la colonne, mais que des huit côtés, vous en trouvez beaucoup, vous en trouvez au-dessus de toutes nos églises romanes, par exemple. Les huit représentent l'éternité. D'ailleurs, quand vous dites on va se revoir dans une semaine, vous dites on va se revoir dans 8 jours. Ce qui est une manifestation de l'éternité, même dans notre vocabulaire, que nos révolutionnaires n'ont pas encore réussi à nous effacer. Quand on parle de 2 semaines, on ne dit pas 16 jours. Mais on ne dit pas non plus 14, puisque une semaine serait 14 de 7 jours. Non, on dit 15 jours, c'est-à-dire une fois 7 et une fois 8, c'est-à-dire 2 fois 7 et la dernière septaine se finit par un 8e jour qui est l'entrée dans l'éternité. Voilà pourquoi il est important de consacrer les eaux de la fontaine. T'as pigé un peu ? C'est pas trop compliqué ? Non, les enfants sentent ça beaucoup plus facilement que nous les adultes. Beaucoup plus. En plus, l'Église, c'est la transfiguration du cosmos. Ce n'est pas notre sanctification à nous personnellement. C'est tout le cosmos qui est transfiguré. Imaginez, c'est les dialogues que nous avons entendus avec Saint Jean-Baptiste. Imaginez ce que Jean-Baptiste voyait. Le Créateur, celui qui a créé tout l'univers, celui qui est d'une sainteté inexprimable, devient petit comme un homme et demande à Jean de le baptiser. Et le baptême, c'était le baptême pour le repentir de ses péchés. Justement, celui-là qui n'a aucun péché. Et il se repent quand même. C'est-à-dire qu'il assume notre repentir. Il avait de quoi être surpris, le pauvre Jean-Baptiste. C'est d'une transfiguration de toute la nature, de tout le cosmos. Mais pas simplement le cosmos, pas simplement l'espace cosmique, mais le temps aussi. Le temps qui, pour nous, dans la foi, n'existe pas. Tout à l'heure, à la liturgie, maintenant encore d'ailleurs, vous étiez présent avec la Mère de Dieu et Saint Jean au pied de la croix avec le Christ. Réellement, vous étiez présent à ça. Vous ne le voyez pas, moi non plus. Mais nous le savons, nous le croyons, c'est comme ça. Mais nous sommes aussi présents dans la grotte de Bethléem. Et nous sommes présents aussi à l'ascension avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes vivants sur terre, mais que nous participons encore, partageons la vie des premiers hommes, des hommes proto-préhistoriques, je ne sais pas comment les appeler, les tout premiers. Et nous sommes aussi en communion, unis avec ceux qui viendront à la fin. Tout ça, ça fait un corps. Donc, pour montrer comment le temps est transfiguré aussi, la fontaine elle-même manifeste la transfiguration du temps. Comment ? Avec ses 8 côtés et avec son pivot central, suivant l'heure du jour et des saisons, ça projette une ombre, ça fait un grand cadran solaire qui ne montre pas la lumière toute la journée, la nuit ça ne montre pas. Et puis quand on a des bâtiments autour, donc la lumière est coupée le matin trop tôt et le soir, oui, n'empêche qu'il n'y a pas besoin que le soleil tape dessus, mais c'est quand même un cadran solaire. Donc le temps est transfiguré. Quand vous assistez à un office ou dans votre prière, ne pensez pas à ces choses-là, mais il faut les connaître, il faut les sentir. Comme quand la maman embrasse son bébé, elle ne peut, si elle pense, voilà, je suis en train de l'embrasser parce que le signe du baiser, c'est comme si je le mangeais, comme si je l'assimilais, hein. C'est plus de l'amour ça, c'est de la réflexion intellectuelle. L'amour, c'est vraiment par amour et de recevoir l'amour de son bébé. Les symboles, ils existent. Tout à l'heure, je disais, c'est dommage de les expliquer. À partir du moment où on les explique, on ne les vit plus. Mais on est, hélas, nous n'avons pas la simplicité des hommes anciens. Et il est nécessaire pour nous de réapprendre ce sens des symboles. C'est pour ça que de temps en temps, il faut les expliquer, comme j'essaie de le faire de suite. Mais le principal, c'est qu'après, on oublie ça, mais qu'on se sente dans ce monde-là. Quand vous entrez dans l'atrium, la paix qui y règne, le bruit de l'eau, les formes, l'église qui est devant vous, tout ça, ça doit vous amener à avoir conscience que vous arrivez dans un autre monde. Le glouglou de la fontaine, le cercle d'un vitrail que vous voyez à peine, mais qui est le seul vitrail rond, qui montre que Dieu est un seul, qu'il y a un seul Dieu. Puis après, 3 fenêtres en dessous, qui montrent que ce Dieu-là, il se manifeste à nous par la Trinité, qu'il est trinitaire, etc., etc. Tout ça, ça nous met dans une ambiance qui n'est plus l'ambiance du monde logique, du monde scientifique dans lequel nous sommes. Donc oubliez tout ça, enfin, oubliez, mais vivez-le. Quant à maman, je pense qu'elle ne le faisait pas, hein, mais tu sais, les mamans, quand elles ont un petit bébé, elles l'appellent mon petit lapin. Ben, c'est un symbole. Le petit lapin, il ressemble pas tellement à un lapin. Il serait drôle, le bébé, avec des grandes oreilles et des grandes dents. Ça. N'empêche que quand maman appelle son enfant mon petit lapin, il y a toute une douceur, il y a toute une gentillesse, il y a tout un amour qui passe rien que dans ce mot-là. Eh bien, c'est pareil pour tous les symboles. Si je te donne une poignée de main, c'est un symbole. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, bah, tu vois, on est unis. On est un, tous les deux. C'est ça, une poignée de main. C'est pas un signe qu'on a inventé, c'est que ça crée quelque chose. Je te donne une bonne main parce que je ne peux pas t'embrasser en permanence. Tu me vois embrasser les sœurs. Mais elle m'embrasse la main. Parce que leur amour pour leur père spirituel ne doit pas être un amour humain, n'est pas un amour affectif. Mais dans la main droite de leur père spirituel, elles doivent reconnaître le Christ qui est à la droite du Père. Si bien quand elles embrassent la main, ou quand vous faites, c'est pas Père Élie que vous embrassez, c'est le Christ qui est présent en Père Élie. Même si Père Élie est indigne, c'est autre chose. Mais.